cicatrice de la sève d'Osiris.
Chez 94.3 FM à Québec.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Lundi le 25 octobre, il est 13h et c'est Écoute locale, les entrevues qui commencent à l'instant avec moi-même, Émilie Rioux. Aujourd'hui, la personne fabuleuse qui me fait l'honneur d'être mon invitée, eh bien, c'est le seul, l'unique, Gab Paquette. Pour 60 minutes, entrer dans l'univers de Gab Paquette, un des artisans de la scène locale de la ville de Québec. C'est ce qu'on fait à Écoute locale, les entrevues. On prend le temps de découvrir un à un nos artistes locaux. Il est avec moi en studio, Gab Paquette. Salut!
Salut!
Il chante le bonjour tel un rossignol.
Ah, ça me tentait.
Comment ça va, Gam?
Hey, ça va super bien, merci. Merci de m'inviter. Je suis très honoré d'être là parmi vous.
As-tu fait souvent ça, des entrevues long form, des longues entrevues?
De fond comme ça, oui, bien plus dans les radios communautaires, là, radios universitaires comme ça, habituellement à Radio CAN, puis dans les radios commerciales, ils me donnent à peu près 3 minutes
ouais.
pour expliquer qui je suis, puis que je raconte ma vie au complet. Je vais parler plus lentement là, pour cette entrevue-là.
Étirer le 3 minutes ouais, pour en faire ça. Un 60.
Exactement.
Et je suis convaincue qu'on va avoir des choses à se dire durant 60 minutes.
Oui.
Je suis même pas inquiète. Gams, c'est quand même quelqu'un qui fait partie du fond sonore de Québec depuis plusieurs années déjà. Ceux qui commencent à s'intéresser à la scène locale de Québec dans les dernières années, je pense, retiennent ton nom rapidement en disant « Ah oui, Gab Paquette, il a toujours été là ». Moi, je me souviens d'un monde sans Gab Paquette, par contre.
Ah oui?
Un monde triste, un monde sans saveur. Non.
C'était en quelle année, ça? Je me souviens même pas de pas avoir été là dans la scène locale.
Ça fait très longtemps, moi, que je te connais. Quand je suis arrivée à Chiz, Gab Paquette, c'était déjà un personnage, c'était déjà quelqu'un, tu faisais déjà de la musique, mais ça a beaucoup évoluer, ce projet-là.
Ben, il faut, hein.
Dans les dernières années, il y a eu plein d'épreuves, il y a eu plein de revirements de situation. Et aujourd'hui, on peut quand même célébrer le fait que tes derniers albums ont eu un très bon succès, un bon rayonnement. Tu fais des shows, tu fais de la tournée. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui a débarré.
Ben, ça a jamais mieux été mon projet. Puis là, ben, cette année, suite à justement, ça a commencé les spectacles puis tout, puis on est chanceux parce qu'on a été partout au Québec, puis c'était sold out, les gens sont tellement contents, fait que oui, le projet ça a évolué petit à petit, mais ça a jamais mieux été, fait que j'en suis très reconnaissant.
C'était un gros été pour toi et ta gang, pour ton band. Vous avez joué presque tous les festivals possibles dans les gros festivals musicaux de l'été, puis bon, j'espère que les gens qui nous écoutent ont eu l'opportunité de voir le spectacle, de pouvoir entendre des chansons dans leur version live.
J'espère pour
on
eux,
l'espère.
Il va en avoir d'autres là, si jamais c'est pas arrivé. Ben, c'était dans la foulée aussi de la tournée du nouvel album. Fait que nécessairement, c'est ça, on était fébrile puis on était tout excité de présenter le nouveau spectacle. Alors venez nous voir, on est les druides de l'amour et puis on vous attend.
On va remonter un peu dans le temps, Gab, pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant en regardant ce qui s'est passé au tout début. Gabriel Paquette, t'es originaire d'où, toi?
Je suis originaire de Québec même. Là, je suis né à l'hôpital Saint-Sacrement et puis ma famille restait dans le coin de Charlebourg, Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Saint-Charles. Alors, j'ai grandi un peu là-bas, mais surtout j'ai grandi après à Limoilou. Ça a été l'endroit où ce que j'ai fait toutes mes années d'école. Là. J'ai fait toutes les écoles de
Limoilou. Les écoles de Limoilou.
À peu près, là, c'est ça. J'ai fait en tout cas, Saint-François d'Assise à l'école primaire. Après ça, à l'école secondaire, j'ai fait... Anciennement, ça s'appelait Rocamadour. C'est devenu l'école de la Cité. Ensuite, je suis allé à Jean de Brébeuf, puis j'ai fait le cégep Limoilou. Je suis très, très Limoilou.
Limoilou, c'est comme ton village, en fait.
Exactement.
C'est comme ton petit village de campagne.
Exactement. Quand je retourne là, ça me fait toujours chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de souvenirs d'associés à toutes les rues.
Ouais, j'imagine. Ben, moi, je suis très attachée aussi au quartier Limoilou. Fait que je comprends tout à fait cette affection-là pour ce quartier-là, qui est très village d'ailleurs. Je trouve qu'il y a quelque chose de très attachant dans les personnages.
Les gens sont chaleureux, puis il y a beaucoup d'activités, il y a un bel esprit de communauté.
Et ça bouge beaucoup. Donc, t'es born and raised de Québec City. Est-ce que t'as déjà habité ailleurs?
Brièvement, j'ai habité quand on était jeune à Montréal, à Laval, puis à Victoriaville.
Oh, qui a un petit clin.
Un bar, c'était Les Bébés, le premier album. Et l'autre côté, c'était les New Kids on the Block.
Wow!
C'était la seule cassette qu'on avait.
Wow, fait que c'est boys band, mais comme bilingue.
Ouais,
en anglais,
exact.
En français.
Ah oui, ça se passait. C'était ça qu'on écoutait tout le temps. On revirait la cassette, puis on connaissait les chansons par cœur. Moi, j'accrochais plus sur Les Bébés, là, parce que les New Kids on the Block, là, c'était moins... C'est moins mon genre, mais j'étais capable d'apprécier.
Un petit peu plus, disons, les beaux blonds que pourquoi t'es dans la lune que Step by Step. On a une préférence entre les deux. Mais je dirais que moi, je suis un peu jeune par rapport à cette période-là. Ouais. J'ai peu de souvenirs des Bébés. Pour moi, c'est un petit peu plus... C'est les années 80, 90.
C'est 89, là.
C'est ça. Moi, je suis un peu jeune quand même là, pour l'époque, mais je connais l'ampleur des influences qu'ont eu ces groupes-là au Québec. Là, même, tu sais, moi, c'était plus les Backstreet Boys à l'époque. C'était la deuxième vague des boys bands, les NSYNC et tout ça, qui ont été très influents. Mais ça a parti de là. Ça a parti avec les Bébés puis avec New Kids on the Block au début.
Oui, exactement. Ben, les Bébés, c'était un phénomène qui était quand même exceptionnel au Québec. Là, et puis, ça a tellement marché dans les premières années, c'était fou. C'était des véritables rock stars, là. Les gars se faisaient courir après dans la rue. Là. C'était fou. Là.
À l'époque, est-ce que tu écoutais cette musique-là en disant « Ah, j'aimerais ça, moi, être une rockstar, j'aimerais ça, faire ça ou pas du tout?
Ben, il y avait, c'était plus ma sœur qui faisait ça. Elle faisait des concours de lip-sync. Puis moi, j'étais plus spectateur à cette époque-là. Là. J'étais pas, je me commettais pas à faire des spectacles ou des trucs comme ça, mais je retenais quand même assez bien les chansons. Puis j'étais fasciné par tous ces univers-là là, qu'on voyait.
Ouais.
Fait que non, j'ai pas fait de concours de lip-sync de ma jeunesse. Ça s'est passé plus tard pour moi. Là. En tout cas, les gens habituellement qui font de la musique commencent ça assez jeune. Et moi, c'est ça, j'ai commencé à faire de la musique à 18 ans environ.
Mais parce qu'il y a plein d'histoires. Il y a effectivement autant de parcours qu'il va y avoir de musiciens. Tu sais, il y a des gens qui apprennent à jouer le piano, hein, les cours de piano à 4-5 ans. Ça, c'est exactement. Un classique. Souvent, c'est des cours de musique qu'on abandonne assez rapidement, par contre. Lorsqu'on est enfant, jeune, mm-hmm. puis la décision vient de nos parents.
C'est ça.
Bien plus que de nous.
Ça paraît comme quelque chose d'obligatoire. Là.
Exact. Ça devient des regrets, souvent, de dire « Ah, si j'avais continué à jouer de cet instrument-là, je serais donc bien bon, je serais donc bien bonne. » Alors qu'à 18 ans, ben, c'est plus conscient. C'est une initiative qui vient de toi.
Oui, puis souvent, ben, c'est un peu malgré le fait que les gens veulent pas trop t'entendre. Là. c'est ça. Quand on reste chez nos parents, puis qu'on se met à jouer de la guitare, puis à chanter, des fois, c'est pas, ça fait pas le bonheur
c'est
de tout le monde.
Suite parfait.
Non, c'est ça, exactement.
Et c'est parfait comme ça. Mais donc, à 18 ans, on est bon, à la fin du secondaire, début du cégep, puis c'est une période, 18 ans, qui est assez importante, mm-hmm. transitoire, charnière. Pour tout le monde, pour un paquet de raisons. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, t'as décidé de prendre la musique? En fait, de quel instrument tu t'es mis à jouer, en fait?
Ben c'est ça, j'ai ressorti la vieille flûte à bec en bois que j'avais, puis là, on s'est mis à triper sur le progressif, là, genre Genesis, puis trucs comme ça. Fait que là, je m'appelle Gabriel, fait que là, tu sais, je tripais sur le chanteur Peter Gabriel.
Ah ouais.
Je sais pas trop, là, mes amis jouaient de la guitare, puis on faisait des. Tu sais, c'était une espèce de trip mystique, là, on savait pas vraiment pas qu'est-ce qu'on faisait, on savait même pas s'accorder, on savait même pas c'était quoi une note, tu sais, mais. Mais des fois, ça marchait, puis là, on était comme, ah, oh, waouh, ça marche, là, puis là, on a trouvé quelque chose, puis tu sais, une espèce d'expérience mystique, puis bon, on était un peu sur le party, là, tu sais, à cette époque-là aussi, là, fait que ça aidait pas mal à trouver ça vraiment bon, ouais. Qu'est-ce qu'on faisait, alors que c'était probablement très désagréable. Mais, fait que c'est ça, puis après, ben, j'ai commencé à jouer de la guitare moi-même, puis ça a été plus ça, mon instrument, là, mais. Là, les petits instruments avant, là, la petite flûte irlandaise, là, je me souviens, je m'étais acheté ça, puis j'arrêtais pas d'en jouer pendant un été.
Wow!
des trucs comme ça. Là.
Très médiéval,
ouais.
Quand même.
Ouais,
ouais. Ça, on y reviendra, d'ailleurs, à ces influences-là. Donc, la guitare est arrivée à un moment donné un peu plus concret aussi, ouais. comme instrument. Est-ce que tu as appris tout seul? Est-ce que tu as pris des cours?
J'ai appris tout seul. Je me suis sorti des... en fait, j'avais une feuille là, d'accords, là, puis que je n'avais jamais nécessairement touché à ça.
La fameuse feuille de charts, là, avec tous les accords
avec
dessus.
Les accords, ouais. Ou comment se placer ses doigts, puis tout ça. Fait que ça, j'avais ça, mais je savais même pas comment accorder une guitare. Là. Je pensais que les clés, il fallait que tu les mettes toutes égales, parallèles, pour que ça soit accordé.
Bret.
Ouais, ça, c'est
ça peut arriver,
complètement
mais
inconscient.
C'est très, très rare.
Fait que quand j'ai su m'accorder, après, c'est ça, je me suis sorti des chansons sur Internet, là, des petites partitions que j'essayais de chanter. Mais c'est dur au début parce que tu sais, tu fais du strumming, puis tu essaies de chanter en même temps. Fait que là, faut que ton cerveau, il catch. Là, que,
c'est difficile, hein? Je veux dire, faut le dire aux gens, Gab, que pour les gens qui nous écoutent, qui commencent à jouer de la guitare et qui se disent, mon Dieu, j'essaye de jouer, puis tout d'un coup, je deviens complètement désorganisé, le déclic se fait pas. C'est excessivement difficile. Puis moi aussi, je suis autodidacte d'apprentissage de la guitare. J'ai vécu ce moment éprouvant d'essayer de tout synchroniser.
Mais ça prend, ça prend beaucoup de persévérance, mais un moment donné, on le fait, puis on y pense plus. Oui. Ça
arrive. Il y a un déclic. Un jour, on se lève un matin.
Exactement.
Et voilà. Là, tout est placé.
Notre cerveau s'est placé.
Voilà, durant la nuit. Mais c'est beaucoup de travail. Et tu dis persévérance, il faut être têtu aussi pour apprendre à jouer de la guitare tout seul parce qu'il n'y a pas de prof qui est là pour te relancer, pour donner des défis. C'est toi-même qu'il faut qu'il t'enligne sur OK, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Fait que j'imagine que tu allais chercher, comme tu dis, des chansons sur le web que tu avais le goût de monter.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens de la première chanson du premier
J'étais dans l'Ouest dans ce temps-là parce que j'avais fait le programme Katimavik quand j'avais 17 ans, 18 ans. ans. Et fait que je chantais des chansons québécoises. Là. Je m'étais sorti des trucs de Jean Leloup, des trucs de Daniel Bélanger, des affaires, des colocs, des trucs... Tu sais, puis en même temps, pour faire découvrir la culture québécoise aux anglophones avec qui je restais, là, ça me crinquait quand même. Là, dire, OK, c'est quoi les chansons qu'on écoute? C'est quoi les chansons qu'on joue?
Ouais.
Fait que je les écœurais un peu avec ça. Ils n'étaient pas très réceptifs, mais moi, j'étais content.
C'est du patrimoine. Tu répandais le patrimoine québécois.
Ça faisait partie de mon identité.
Dans l'Ouest. C'est le gars qui joue du keb.
Ouais.
Donc, j'imagine que sur le bord des feux de camp, en bout de ligne, tu devais être assez populaire parce que le gars qui connaît les Jean Leloup puis le Daniel Bélanger.
Oui, c'est plus quand je suis revenu au Québec. Là. On faisait pas tant de feux de camp en Alberta. Là. Mais quand je suis revenu au Québec, c'est ça, là, j'avais comme ce petit bagage-là, ce petit répertoire-là. Mais quand je suis revenu, c'est que je me suis acheté le CD de Francis Cabrel, ses grands succès de 77 à 87, je pense. Et je me suis mis à repiquer toutes les chansons pour les apprendre par cœur.
Wow.
Mais c'était un peu un plaisir coupable parce que là, tu sais, dans ce temps-là, je te parle du keb puis tout, mais dans le fond, avec mes amis, on écoutait du punk puis du rock puis des trucs qui n'étaient pas du tout de la chanson romantique comme peut le faire Francis Cabrel. Fait que je faisais un petit peu ça dans mon intimité. Puis à un moment donné, un peu, c'est ça, là, sur le bord d'un feu, etc. On sort une petite chanson de Francis Cabrel. Ça fait chanter les filles. Les gars qui sont plus sentimentales aussi connaissent toutes les paroles par cœur. Fait que ça s'est fait comme ça. Puis à un moment donné, je l'ai juste assumé, tu sais.
Ouais.
Puis là, c'est ça. Francis Cabrel, c'était rendu moi.
Mais c'est excellent. Il s'est levé un matin et Francis Cabrel s'était rendu lui. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que oui, il y a du plaisir coupable là-dedans, mais il y a aussi peut-être plus facile quand t'as une guitare acoustique d'apprendre à jouer des chansons québécoises comme ça, parce qu'on est très chansons québécoises folk aussi dans notre tradition. Alors c'est plus facile à jouer du Jean Leloup à 3-4 accords que du Black Sabbath, par exemple.
Mais c'est ça, mais moi, quand j'étais plus jeune, là, je disais, c'était un peu un plaisir coupable d'écouter du Francis Cabrel, parce que avec mes amis, on s'était mis à découvrir des trucs plus, plus rock, plus stoner. On n'appelait pas ça de même à l'époque, là, mais c'était comme du proto-métal. La musique qui bûche. On aimait la voix Ozzy. On trouvait ça malade, les solos de guitare. Fait que c'était un peu ça, mes premières influences musicales. Quand j'étais jeune, je faisais juste écouter de la musique. J'en jouais pas nécessairement. Mais j'ai toujours été comme en train de fredonner, en train de chanter. Quand j'étais au secondaire, justement, j'étais tout le temps en train de chanter un peu, comme pour passer le temps. Puis la fille, je me souviens, qui était à côté de moi à ma case, je pense qu'elle s'appelait Mélanie, elle me disait toujours, toi, c'est sûr que tu vas devenir chanteur. Puis moi, j'étais comme, non, c'est sûr que non. Voyons, je peux pas, j'étais chanteur. Puis c'est ça, ça arrive comme ça dans la vie. Des fois, c'est les autres qui te disent c'est quoi. Mais c'est ça, à cette époque-là, je faisais du skate, on écoutait du Black Sabbath. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi la prochaine chanson qui s'appelle Wicked World. Parce que sur le premier album de Black Sabbath, les chansons durent à peu près 10 minutes chaque. Fait qu'il fallait que je fasse de quoi, que je choisisse quelque chose qui était plus concis pour l'émission. Puis c'est une très bonne chanson. Il y a le son du premier album de Black Sabbath qui est excellent et ça fait partie du bagage musical que j'ai pu avoir dans les premiers balbutiements de mon amour pour la musique.
Mais sortez votre linge noir, mesdames et messieurs, et crinquez votre gâteau blaster parce qu'on va aller entendre du Black Sabbath sur les ondes de Chiz 94.3. On vous revient tout de suite après avec Gab Paquette. We'll be right back. De retour à Écoute locale, les entrevues. J'espère que vous êtes suffisamment dépeignés parce qu'on est de retour en direct avec Gab Paquette à l'émission. Gab, c'est tes choix à toi, ce gars, Black Sabbath.
Oui.
Parce qu'on disait donc avant la pause musicale que c'était dans tes influences des premiers bands que t'écoutais quand t'étais un jeune débauché.
Oui, oui, je me concentrais sur le sport. Surtout, ouais. On faisait du skateboard ou au skatepark.
OK.
Le sport.
Est-ce que tu fais toujours du skate?
Oui.
Oui?
Oui, oui, oui. Je suis allé au skatepark l'autre jour, puis je me suis remis à faire des ollies. Mais ce qui arrive, c'est que j'ai des spectacles de bouquets, tu sais. Fait que là, si je me casse une main ou que je me rampe la face à terre, ce sera pas super cool.
Oui.
Fait que je vais juste rouler. Là. Ça me tente de faire des passes des fois, mais je laisse ça pour les jeunes.
Oui. Parce que de toute manière, quand on va dans un skatepark, il y a comme des... Les jeunes sont rendus très bons, hein?
Oui, oui, vraiment.
Moi, je suis vraiment intimidée quand je m'en vais quelque part comme ça.
Ah non, je sais.
Ils ont 4 ans, puis ils donnent une leçon de skate.
Ah
oui,
ils font des no slide, whatever, là.
La jeunesse.
Les passes qu'ils font, là.
Ben oui. Mais écoute, on revit cette ambiance-là avec beaucoup de nostalgie, de toute manière, parce que ça fait partie de toi aussi, cette période-là, où est-ce que tu as écouté du punk, du stoner, du grunge, comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Et t'aurais pu, au final, virer dans un band de stoner rock, tu sais?
Oui, puis je me rappelle au départ, quand j'avais commencé à jouer de la musique, c'est ça, en revenant de Katimavik, là, j'avais un band de... On avait commencé à faire du blues, mais ça avait comme pas rapport. Fait que finalement, on faisait juste des covers de Rancid. Puis là, je chantais dans un petit ampli super crade. Puis je me défonçais la voix complètement. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça un moment donné, là, parce que ça, c'était dangereux pour ma santé vocale.
Et d'essayer d'imiter tes membres strong, ouais.
Puis en parallèle, ben, tu sais, je faisais des chansons quand même, tu sais, de mon bord. Fait que je préférais faire mes trucs à la maison, ouais, avec ma guitare acoustique, puis des trucs comme plus relax.
À quel moment t'as commencé à composer, soit des paroles, soit de la musique, c'était quoi? Est-ce que c'était en même temps que l'apprentissage de la guitare?
Oui, ça a été en même temps.
Okay.
Les premières affaires que je faisais, c'est ça, quand j'étais prêt à accorder ma guitare, je composais des chansons, mais là, je les perdais tout le temps parce que ma guitare, elle désaccordait, puis je savais pas comment. Fait que, j'ai des chansons que j'ai enregistrées, puis que, je sais pas, là, c'est la guitare désaccordée n'importe comment, puis... Je m'en rappelais, mais tu sais, la toune a changé, c'est ça, de jour en jour, parce que la guitare désaccordée.
Hey, c'est éphémère.
Oui, c'est ça, mais j'ai commencé directement à composer des trucs, là. Puis tu sais, j'avais des petits claviers super cheap aussi, que ma mère avait acheté quand on était vraiment plus jeunes, puis on n'avait jamais touché à ça. Mais à 18 ans, c'est ça, là, j'ai commencé à taponner là-dessus, puis je composais déjà des trucs, là. J'ai des vieilles cassettes chez nous, dégueulasses, là, mais...
Mais tu les enregistrais, là.
Oui, je les enregistrais.
Il y a une trace de ça à quelque part.
À quelque part, dans un coffre-fort chez nous, j'ai des vieilles cassettes que je sors à l'occasion pour me rappeler des bons souvenirs.
Mais c'est intéressant que t'aies voulu laisser une trace à ce moment-là de ce que tu faisais. Mm-hmm. Je sais pas si c'est parce que tu comprenais l'importance ou tu voulais juste te dire, OK, là je suis dedans, fait qu'il faut le taper, mais c'est pas tout le monde qui...
C'était pour m'en rappeler.
Oui, c'est
fait,
ça.
C'est ça, parce que des fois, j'oublie des affaires, puis là, c'est spontané. T'enregistres des trucs, en tout cas, tu composes des affaires un peu spontanément. Puis là, tu t'en souviens plus, genre 10 minutes, 15 minutes plus tard, parce que t'es trop dans...
Fait que tu te réécoutes, tu te dis « Ah oui, c'est vrai! »
C'est
ça. Tu peux repartir de là.
Exactement.
Pour continuer. C'était
plus pour archiver, tu sais, pour me dire « OK, là, je vais avoir ces idées-là, puis je vais faire de quoi éventuellement avec ça. »
C'est des petits bouts de tunes, tu sais, des petits, un couplet, un refrain,
c'est
une
ça,
phrase.
Exact. Ou des jams, là, que je partais à un moment donné, je sais pas trop.
Tu pars dans ta bulle, tu passes sur record, puis on voit ce que ça donne. Puis donc, majoritairement en solo chez vous, de ton côté.
Oui, surtout.
Surtout.
Dans ma chambre, pendant que je fais l'école.
Oui. Wow! Ça a duré combien de temps, là, la période, disons, où tu fais ça de ton côté, puis que c'est... Tu sais, c'est pour le fun, à ce moment-là, j'imagine.
Ouais, ben, ça a duré... je sais pas, 2 ans à peu près, là. Puis après ça, ben, je me suis mis à avoir un local de musique, t'sais, un local de pratique avec des musiciens. Puis là, on savait pas trop ce qu'on faisait. On avait un drum à moitié, on avait même pas de caisse claire. Mais ça a fini par être comme mes chansons, t'sais, qu'on jouait. Fait que là, j'ai eu le band après Gap Pocket et les Wow, qu'on a commencé
à faire.
Ouais. Ouais,
okay,
oui, oui.
Okay,
on était trois, on était comme un power trio. Et moi, je jouais de la guitare. Puis c'était pas nécessairement défini le style qu'on faisait. C'était ma façon d'écrire, c'était plus la poésie un peu surréaliste, sur des chansons un peu rock. Le bassiste avait beaucoup d'influence ska parce que c'était le début des années 2000, fait que c'était bien à mode. Puis fait que c'est un peu mêlé là, tout ça. Je vous recommande pas d'écouter ça.
Est-ce qu'à l'époque, tu t'accordais ta guitare ou est-ce que tu avais trouvé comment faire?
J'avais trouvé comment faire. On m'avait dit que ça me prenait un accordeur. Là.
OK, c'est ça. Au moins. On sait que la guitare était semi-tunée à ce moment-là.
Ça a pris 2 ans quand même avant que j'aille. 2-3 ans même.
Puis c'était quoi? Est-ce que ça a été un moment où est-ce que tu t'es dit, ah oui, c'est possible de le faire? Parce que oui, il y a le faire pour le plaisir, mais il y a aussi décidé de le faire, je vais dire professionnellement, ou en tout cas de mettre davantage d'énergie là-dedans.
Ben je sais pas, c'est comme si ça se faisait comme tout seul, tu sais, je compose des chansons puis j'espère tout le temps comme être reconnu, puis là je me grave des albums sur un ordi, je m'en fais 15 copies puis je distribue ça au monde, tu sais, puis on sait pas, quand on commence, on sait pas comment faire, tu sais, il y a comme une espèce de magie qui est là, tu sais, tu te dis, je suis un artiste, je vais finir par vivre de ça dans ma vie, puis je vais juste faire ça. Fait que c'est une espèce de combat au quotidien, tu sais, contre, je sais pas, le fait d'avoir un travail salarié, puis de se dire, OK, là, moi, je vais-tu travailler à la shop toute ma vie, mais non, je vais-tu retourner à l'école, là, ça me tente pas, je veux faire de la musique, tu sais, fait que c'est long, là, le processus, mais aujourd'hui, tu sais, je regrette rien parce que je vois où je suis rendu puis je suis capable de vivre de ça, mais tu sais, les débuts, on se le dit, mais c'est flou. Tu sais, c'est pas nécessairement.
On
sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas comment ça marche.
Exact. Puis on y va un peu à tâtons, puis il y a encore à ce jour pas vraiment de méthode ou de manière de faire.
C'est ça, exact.
Ça reste au lieu d'avoir des CD gravés, on a un Bandcamp. Les outils sont différents, la démarche est tout aussi aléatoire, j'ai l'impression, pour tout le monde qui commence et qui décide de persévérer ou non. Ce serait quoi pour toi, musicalement, la plus grande différence entre ce Gab Pocket-là, début 2000, et celui que j'ai en face de moi aujourd'hui?
Ah, ben c'est les outils que maintenant j'ai. Puis, tu sais, à Québec, ça a quand même changé aussi, là, la scène locale. On a beaucoup de ressources qu'on n'avait pas, tu sais. Puis, il y a beaucoup de monde aussi. Puis, il y a beaucoup de projets qui sont là, qui sont super intéressants, puis qui influencent beaucoup les gens. Tu sais, à l'époque, c'était pas aussi soudé que ça peut l'être aujourd'hui, puis les ressources étaient pas là. Fait que on s'organisait comme on pouvait, mais c'est ça, c'était comme plus difficile. Là.
C'était d'avoir des modèles aussi qui existaient à peu près pas, de groupes de Québec.
Il y avait les Ghouls, tu sais, mais les Ghouls, on a commencé à peu près en même temps, en 2003. Eux autres, ils ont commencé en 2002, mais tu sais, on posait des affiches, je me souviens, les Ghouls posaient des affiches, puis nous autres, on posait des affiches par-dessus, ou eux autres aussi, tu sais. On se connaissait pas dans ce temps-là, fait qu'on était comme un peu
guerre!
La guerre de l'affichage ça. Sauvage, je me souviens de ça, mais tu sais.
C'était un autre décor complètement, un autre contexte.
C'est une autre époque. Puis tu sais, il y avait des shows qui se passaient aussi à l'intérieur des portes, dans le bourg.
Ah ouais?
Il y avait le Cachemire, il y avait l'Arlequin, il y avait tous ces bars-là. On faisait des shows à l'Astradamus, on faisait des shows. Tu sais, fait qu'il y avait une vie quand même culturelle
dans le Vieux
qui
Québec.
Était quand même active dans le Vieux Québec.
Ouais.
Ce qui est plus le cas aujourd'hui, tu sais.
Non, c'est vrai qu'on se souvient à peu près pas. En fait, il y a peu de traces de cette période-là, en fait, dans le Vieux Québec. Les bars dont tu parles sont à peu près tous fermés.
Non, c'est ça, c'est fermé.
Mais il y a eu cette diversité-là. C'est vrai que moi, j'en ai entendu parler énormément. Je suis arrivée à Québec en 2009. Déjà, c'était derrière nous, mais on sentait qu'il y avait eu cette histoire-là et qu'il y avait cette vivacité-là qui était encore persistante dans le Vieux Québec.
Ouais, qui manquait quand même, parce qu'après ça, bon, ça s'est transféré tranquillement à Basseville, mais avant, tu sais, qu'il y a des salles de spectacle qui soient aussi le fun, tu sais, ça a pris quand même du temps avec le cercle soit là. Ben, le cercle, ça a sorti en 2007, fait que ça a pris. Il y a eu un buffer de 2 ans environ. Là.
Moitié 2000, on a comme quelque chose qui se passe à Québec qui crée une mouvance de la haute vers la Basseville. T'as quand même persisté, toi, dans ton amour de la haute ville?
Oui.
Parce que malgré que tu sois un petit gars de la basse, moi je me souviens de l'époque du Saint-Jean-Baptiste Country Club, qui a été un beau rassemblement là, de
plusieurs
amis. Ouais. C'est ça, qui étaient plus ou moins loin du quartier Saint-Jean-Baptiste, mais en tout cas qui habitaient, disons, ce secteur-là de la ville.
On gravitait pas mal tout alentour de la rue de Ligny, là, parvis de l'église, tout ça. Là, ça a donné de même le Saint-Jean-Baptiste Country Club. C'est une histoire d'amitié avant tout. Puis des fois on se rassemblait, on composait des chansons ensemble, puis c'était des projets qui étaient un peu fous de composer une chanson par jour, je me rappelle, tu sais, c'était mené surtout par Simon Paradis à l'époque. Puis après ça, ben il y a eu quand même des beaux moments là. On s'est rassemblés au chalet un moment donné, quelques années plus tard, pour faire le fameux album Trinjonction Dream. C'est ça, exact. Avec Alexandre Martel à l'époque, avec Claude Gagné, il y avait Hugo Lemal, il y avait Anne-Christine Guy, il y avait
C'est une autre époque, Jane Erhardt. Toute cette gang-là, finalement, ouais. qui, pour la très grande majorité, font encore de la musique aujourd'hui, qui, à l'époque, avaient un petit projet chacun de leur bord, puis c'était un super groupe. Les gens s'en souviennent peut-être pas, même des gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Mais avant l'espèce de le pantoum, avant tout ça, le Saint-Jean-Baptiste Country Club, c'était le super groupe de tout le monde à Québec qui fait de la musique, qui se rassemblait pour faire un disque.
C'est un trip de gang d'amis, là, c'est ça. Le pantoum commence. À cette époque-là, le pantoum, c'était en 2012 environ, tu sais. Fait que nous autres, c'était en 2013. C'est ça. C'est à peu près en même temps. Ouais. Qu'on, c'est ça. Puis bon, à un moment donné, les choses ont changé. Puis on s'est perdu un peu de vue pour différentes raisons. Puis c'est ça. On a chacun continué notre bord, nos projets solo. Puis,
ouais. Il y a des choses là-dedans qui sont restées quand même. Moi, je me souviens qu'il y a une chanson qui s'appelle Nouvelle-Calédonie 2.
Ouais, ouais.
Qui était sur Trinjonction Dream, qui est ensuite devenue une chanson de Mauve.
C'est ça.
Tu sais, il y a des trucs là-dedans. Il y a des gems. Il y a genre des policiers poètes. Ou des, c'est une chanson.
Oui, c'est une chanson que j'ai composée exactement là. Là,
exact.
Je me rappelle, les idées me venaient dans l'auto en allant au chalet. Ah, policier poète. Puis bon, je sais pas, les gars, justement, ils ont été composés les paroles de Nouvelle-Calédonie 2. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais en bas dans la chambre, puis je composais policier poète. Fait que ça se faisait comme en parallèle, comme ça. On avait des équipes, tu sais, de composition,
ouais.
Puis de création. C'était super effervescent, puis c'est ça. Je pense qu'on... On a vécu des beaux moments.
Ben c'est une manière de tester des affaires aussi, sans aucune espèce de pression. C'est pas un album comme tel, c'est pas un...
Non, c'est ça, on savait pas ça allait être quoi le résultat non plus.
Exact.
On arrive là, il y a pas de thématique. C'est juste, OK, l'exercice, c'est de faire une chanson chaque pour faire un album. Fait que c'est ça, mais ça a donné de quoi de super intéressant. Là, c'est le fun.
Vous irez voir ça si vous connaissez pas les albums du Saint-Jean-Baptiste Country Club. Il y a eu des shows de Noël aussi. C'est passé plein d'affaires à cette époque-là. Dans la Haute-Ville, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ouais. On va aller en pause publicitaire, mais on va y aller en musique juste avant. Avec encore une fois une chanson de ta sélection, Gab.
Oui, une chanson de ma sélection. Ça me rappelle l'époque, à cette époque-là, c'est ça, j'avais un ami qui s'appelait Edmé Étienne, puis Edmé, c'est un poète, c'est ça, il est disparu aujourd'hui, alors sa chanson préférée de Brassens, parce que Brassens, ça m'a beaucoup influencé aussi pour écrire en français, surtout, fait que j'ai choisi la chanson La bouteille, la rose et la poignée de main.
Un peu de poésie.
Un peu de poésie,
cette fois-ci, sur les ondes du 94.3, on vous revient tout de suite après, vous écoutez Écoute locale, les entrevues avec Gab Paquette.
Cette rose avait glissé de la gerbe qu'un héros quêteux portait au monument aux morts. Comme tous les gens levaient leurs yeux pour voir hisser les couleurs, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route et m'en allais quérir au petit bonheur la chance. Un corsage à fleurir, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une rose par devers soi. La première à qui je l'offris tourna la tête avec mépris. La deuxième s'enfuit et court, encore en criant au secours. Si la troisième m'a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête de nageant. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas fleurir de belles inconnues, on est tombé bien bas, bien bas.
Il contribue tous les jours à faire avancer la recherche scientifique, que ce soit sur le terrain, en laboratoire ou derrière leurs ordinateurs. Leurs découvertes et leurs idées nous aident à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à anticiper le monde de demain. Ils sont étudiants ou chercheurs et viennent nous parler de leurs projets dans Visage des sciences, une émission présentée par Océane Perrault, les mercredis de 11h à midi.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
On est de retour à Écoute locale, les entrevues. Je m'appelle Émilie Rioux et devant moi, j'ai la chance d'avoir Gab Paquette pour encore 30 minutes. Gab, ça va toujours bien?
Toujours,
pas
toujours.
Pas trop traumatisé de ce scrutage à la loupe de
mais
ta
non,
carrière?
Pas du tout, pas du tout. ça me fait plaisir de parler de moi-même.
Ben oui, mais on jase de musique. Beaucoup, on a entendu Georges Brassens
oui.
tout à l'heure, avant ben la oui. pause publicitaire. Georges Brassens, qui est un grand parolier, mm-hmm. qui est un grand raconteur d'histoires, qu'il faisait aussi à la guitare acoustique. Ça fait partie aussi de sa marque musicale, mm-hmm. Avec toujours cet air bonasse, toujours en disant dehors des ondes, on a le goût d'être son ami.
Ah ben oui, c'est sûr, t'as le goût d'être son ami, là. T'as le goût de jaser, t'as le goût de raconter des histoires, t'as le goût de rire avec lui, c'est
ben,
ça.
Moi, j'aurais le goût de l'avoir à Noël.
Ben oui.
Il faut que ça, c'est mon oncle Georges.
Oui, ça serait c'est lui qui fait le Père Noël.
Mais bien sûr, ben c'est oui. certain, c'est lui qui fait le Père Noël.
C'est ça.
C'est certain. Mais il y a des univers comme ça qui nous font sentir bien, mm-hmm. automatiquement. Georges Brassens en fait partie. Et je disais qu'il racontait des histoires, puis on parlait de guitare acoustique. Tu sais que c'est aussi l'instrument par lequel tu as commencé
oui.
à écrire des chansons.
Oui.
Tu disais tout à l'heure que tu as choisi aussi de les écrire en français.
Ben oui, parce que, bon, je sais pas, j'avais le réflexe d'écrire des tunes en anglais. Ben, je parlais que je sortais quand même des partitions en français, puis que j'avais commencé à jouer de la guitare, puis à chanter un peu comme ça. Mais sauf que mes réflexes de composition à l'époque, c'était d'écrire des textes en anglais parce que j'écoutais beaucoup de musique en anglais. Fait que là, je voulais faire ça. Puis, bon, c'était de l'anglais un peu approximatif parce que j'étais pas très bon.
L'anglais de l'imoire.
Puis, non, oui, c'est ça, mon anglais de Limoilou, je le sortais, mais c'était pas si pire que ça, mais j'étais quand même pas bilingue à 100% pour pouvoir exprimer des idées comme je pouvais le faire en français, sauf que j'avais pas d'exemple nécessairement, tu sais, en français qui me plaisait assez pour me dire c'est malade,
ouais.
je veux vraiment faire ça. Puis, à un moment donné, je travaillais à Plonge au Commensal, qui est un restaurant sur la rue Saint-Jean, c'est ça. Et. Il y a un ami qui avec qui je travaillais, puis lui, c'était un grand fan de Georges Brassens, puis il mettait la cassette en boucle pendant qu'on travaillait. J'ai fini par apprendre les chansons par cœur de cette façon-là. Rendu à la maison, bon, on se dit, bon, je vais être capable de jouer ça, ça n'a pas l'air bien compliqué. Georges Brassens fait tout le temps le même riff. Mais là, tu essaies de jouer ça, tu te rends compte que genre 80 accords par tune. Puis c'est quand même assez difficile.
Il est bien plus jazz qu'on pense, en fait.
Ah oui, très jazz, mm-hmm. très, très jazz. Et ça a été un défi musical. Puis bon, j'ai fini par apprendre quelques chansons par cœur. Puis après ça, ben c'est ça. Ça a commencé comme ça. Ça m'a donné le goût d'écrire en français. Ben, c'est sûr que, bon, Brassens, le niveau est quand même assez élevé. Là, fait que ça a pas donné tout de suite quelque chose de le fun, mais ça reste quand même une grande influence pour moi.
Ouais.
Je trouve que il a atteint le top du texte de la chanson française Brassens.
Mais au moins t'avais un modèle, tu disais
ouais.
c'est possible écouter quelque chose en français puis que j'aime ça, donc c'est possible que j'en fasse puis que j'aime ça. Tu sais,
c'est ça.
Il y a de l'espoir, il y a de la lumière.
Ça m'a donné le goût d'en faire. C'est
ouais. C'est ce qui est, c'est quand même un moment charnière, un moment déterminant mm-hmm. Pour quelqu'un qui écrit un peu random dans sa chambre.
Ben oui.
Pour lui-même. Après ça, bon, si on se transporte un peu plus loin dans la ligne du temps, il est né le personnage mm-hmm. Gab Paquette. Aujourd'hui, on connaît bien l'univers Gab Paquette. On sait ce que ça représente. Il y a le chanteur de charme qui est décliné de plein de manières sur différents albums. On peut même comparer les deux albums, le dernier qui vient de sortir et le précédent, et même voir quand même une grande différence dans les thèmes qui sont approchés dans la texture musicale.
Ouais.
Également. Avant ça, il y a eu un EP, Casiopas des Moustaches, avec cette chanson qui est un verre d'oreille aussi puissant que n'importe quel tune de Nicolas Ciccone. mais il y a des ouais. des petites gems, encore une fois, là-dedans, des petits bijoux de chansons. Moi, je t'ai connue
ouais.
à cause d'une chanson qui était en boucle sur les ondes de Chiz au moment où je suis arrivée en 2010. Et c'était les soucoupes volantes.
Oui, les soucoupes volantes, c'est ça.
Ouais, c'était la chanson de Gap Pocket.
C'est parce que j'ai passé, tu sais, après Gap Pocket et les Wow, là, j'avais plus de band. Fait que j'ai passé quand même 10 ans environ à pas avoir d'album, à faire des petits singles par-ci, par-là. Puis là, j'essayais des affaires. Puis, ben, les soucoupes volantes, ça avait quand même fonctionné. C'est la première chanson, je pense, que Chiz a diffusée de moi, là. Puis, soucoupes volantes, c'était un trip, là. Je sais pas, j'ai écrit le texte en 5 minutes. La musique, j'avais fait ça sur un vieux 4-track cassette, là. Puis, c'était un peu, OK, j'essaye ça, j'y vais à fond. Puis le style n'était pas nécessairement défini. Là, tu parlais de Casiopea des moustaches, tu sais. Puis avant ça, il y a eu Sélection Continentale.
Ouais.
Où est-ce que là, j'ai fait une espèce de pot-pourri de des chansons que j'avais écrites en 10 ans, puis qui étaient à peu près dans le même style, dans le même range. Fait que esthétiquement parlant, ça marchait, tu sais. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai assumé le kitsch aussi à 100%.
Sélection Continentale, le titre le dit. Déjà, le personnage était là.
Ouais.
Je veux dire, Fais l'amour avec moi. Les hits qui sont devenus, en fait, qui sont les chouchous, les fans de Gap Pocket trippent énormément sur les tunes de Sélection Continentale.
Oui, ils sont super attachés à ça. Consommation, par exemple. Continental Select, je me fais tout le temps chanter. Papa, maman, bébé, amour.
Qui est devenu, mon Dieu, un hymne qui a transcendé Gap Pocket, qui a été repris par Beat Sexu, qui a évolué énormément. Mais donc, il y a des chansons comme ça qui te suivent depuis le début, qui ont changé énormément à partir du moment où tu les faisais en spectacle après l'album. Tu sais, il y a vraiment eu des chansons qui sont suivies. Puis il y en a qui ont été oubliées.
Il y en a qui ont été oubliées, puis c'est bien correct. Tu sais, aussi, on peut pas toutes les garder. Puis c'est le public aussi qui décide. Puis c'est moi, là, tu sais, aussi, parce que veux pas, à un moment donné, je suis tanné de chanter les chansons, là. Puis après 10 ans que j'ai... Tu sais, on fait plus « Fais l'amour avec moi » en show, parce que après 10 ans, je suis un peu tanné de finir le show avec ça.
Ouais.
Tu sais... mais à l'époque, c'est ça, de Sélection Continentale, ben c'était comme une photo que je prenais après mes réflexions. Je me disais, OK, là, j'ai compris, puis je vais l'assumer à fond, puis je vais y aller là-dedans. T'sais. Parce que c'est le style que j'aime. C'est là-dedans que je suis confortable. Puis ben tout ça a commencé parce que c'était quand même un long processus, mais je me tenais avec un ami qui s'appelait Jérôme Lépiné, puis on faisait des soirées DJ au Bal du Lézard, puis avec des vieux vinyles. Ça ressemblait un peu à MC Gilles. Je me souviens, on avait été booké avec MC Gilles un moment à l'Agité en 2008 par le Off Festival. Fait qu'on avait fait un show en commun, puis on trippait comme sur... aller dans les friperies, ramasser des vêtements un peu loufoques ou flamboyants. Puis même chose pour les vinyles. Fait qu'on collectionnait les vinyles, mais tu sais, il fallait que ça soit kitsch, puis il fallait que ça soit comme... Tu sais, le sentiment, c'était comme arc, wow.
Ouais.
C'est un peu ça. C'est le mélange des deux. Puis on s'est mis à assumer ça, tu sais, qu'on trippait là-dessus, puis à découvrir plein d'affaires, puis être... Fait que... Veux pas, à un moment donné, ça influence aussi mon écriture, tu sais. Puis qu'est-ce que je veux faire. Puis là, bon, je commence à écrire des affaires qui sont un peu plus loufoques, puis sont un peu plus comme pince sans rire ou des trucs. Fait qu'à un moment donné, je me mets à avoir assez de chansons pour pouvoir faire un spectacle comme ça. Fait que j'essaye comme les premiers spectacles que je faisais à cette époque-là en solo, c'était à Librairie Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, tu sais, c'est un peu mon cercle d'amis qui est là.
Ouais.
Puis je me rappelle du premier show de Saint-Valentin à Librairie Saint-Jean-Baptiste. Je me montre plein de covers. Je fais quelques chansons d'amour de mon propre cru. Puis il y a 15 personnes là, tu sais, qui sont là. C'était vraiment à la bonne franquette. Puis j'ai vu des photos de tout ça. J'ai pas de costume. J'étais en gilet noir.
Non,
c'est super.
Tu sais,
c'est ça.
Mais à ce moment-là, c'est Gabriel Pocket plus que Gab Pocket.
Exact, c'est ça. Okay. C'est ça. Puis là, à un moment donné, je me fais dire, parce que c'est le public aussi qui te valorise dans ce que tu fais, là, tu sais, qui reviennent te voir. Puis là, c'est super valorisant pour toi. Fait que t'es écoutes. Puis t'es comme, ben oui, mais je vais faire ça, tu sais. Pour vous, mes amours. Fait que là, t'as plus le choix. À un moment donné, tu peux pas revenir en arrière parce que le monde, il revient à tes spectacles pour. Se taper ses cuisses, puis être comme, hein, c'est donc bien drôle quand
ils
tu chantes inapproprié, puis des trucs comme ça, puis là, ils veulent rire, puis là, à travers tout ça, tu sais, j'avais des chansons qui étaient peut-être un peu plus sérieuses, fait que là, tu sais, les amis, ils viennent, ils invitent 3-4 personnes, puis ils se disent, hey, désolé, Gab, là, les premières chansons que t'as chantées, je les ai pas trouvées drôles. Là, tu sais, c'était pas des chansons drôles.
C'est pas un show d'humour.
C'est ça, c'est pas un show d'humour que je fais, mais là, à un moment donné, tu sais, c'est ça, il faut pas mêler le monde.
Mais t'es-tu déjà senti pogné avec ça?
Non, pas du tout. Je sens que je peux faire ce que je veux. Puis c'est tellement un éventail large, en fait. Tu sais, le kitsch, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout, tu sais. Fait que c'est ça que je fais. Puis à un moment donné, ben aussi, c'est que t'as une réflexion philosophique par rapport à la portée de chansons puis de ce que tu fais, tu sais. Fait que là, je découvre des courants philosophiques qui parlent un peu plus du kitsch. Puis fait que là, ça me permet de comprendre aussi qu'est-ce que je fais. Puis ça me permet aussi d'avoir de prendre une direction, tu sais. Oui.
Puis de dire que t'as une direction artistique à quelque part.
T'as une démarche, tu sais.
Et après est venu le visuel, donc. Après est venu, bon, tout l'attirail de costumes.
C'est ça, exactement.
Qui maintenant fait aussi l'espèce de marque de Gap Pocket.
Mais tu sais, il y a une nuance aussi à dire, OK, je me fais pousser un mollet, puis là, je m'habille de façon un peu kitsch. Mais tu sais, j'aime vraiment ça, là. C'est pas. Moi, je trouve ça beau pour vrai. Je suis pas comme en train de dire. Hey, regardez-moi, c'est lettre, puis ça vous fait réagir. J'aime vraiment ça. Ouais. C'est un mode de vie.
C'est ton style. C'est mon style. C'est ta manière d'être.
C'est juste de l'assumer, puis de. C'est ça.
Exact.
D'être soi-même.
Il y a des gens qui pourraient dire que tu ris, en fait, de cette époque-là, ou que tu ris, mais non, t'es vraiment à fond là-dedans.
C'est un hommage.
C'est tout à fait un hommage. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu martèles depuis le début, de dire, oui, j'y vais à la sauce des chanteurs de charme, tu sais, un peu un clin d'œil à d'autres très, très grands de la chanson qui ont fait fortune avec ce style-là.
Bien, c'est ça.
C'est un clin d'œil, c'est un hommage, mais c'est pas une parodie en rien, malgré que c'est drôle, tu sais.
Ben, c'est drôle parce qu'il y a il y a quand même un aspect de tout ça qui est conscient, tu sais, qui est lucide, puis on a changé d'époque aussi, là, on n'a pas le même regard sur l'amour, sur les relations, etc. Fait que nécessairement il y a un autre point de vue, tu sais, qui est là. Fait que
on pousse à l'extrême, en fait, avec les chansons, on pousse même dans l'absurdité.
Ben oui, ben il faut.
Le thème de l'amour. Avec Santa Barbara, on avait quelque chose qui était je pense encore près, je te dirais, de Sélection Continentale. On voyait que le personnage évoluait. Musicalement, vocalement plus solide aussi par rapport à ce qu'on avait entendu avant. Et je pense que c'est l'album qui a fait en sorte que tu t'es fait vraiment connaître. En anglais, on dit les breakthrough albums.
Ben, ça a fait que, c'est ça, il y a des gens peut-être un peu plus placés dans le milieu qui m'ont donné des chances, tu sais. Après Santa Barbara, ça a été, on a fait la première partie des Trois Accords, on a fait la première partie de Michel Louvain au Festival d'été de Québec.
Mémorable, d'ailleurs, ça.
Ben oui, ça a été un très gros spectacle, puis on m'en parle encore, tu sais, ça va faire 5 ans, là, l'année prochaine, puis... En entrevue encore, j'arrête pas de parler de ça.
Ça revient.
Ben oui, ça revient.
moment mythique. Puis 2016, déjà, ça fait quand même un bail, cet album-là.
C'est à la fin de l'année 2016, fait qu'en octobre. Ça fait un bail.
Ouais, avec des chansons, bon, les gens retiennent beaucoup Coach de vie, Santa Barbara, Appel à frais virés. Il y a des chansons là-dedans qui sont devenues des beaux verres d'oreille avec le côté très Place Melrose dans le visuel de l'album, dans les vidéoclips. Ça te suit partout, tout ça, cette esthétique-là.
Ouais.
Alors que là, pour le dernier album, qui est paru l'an dernier, on a gardé la même idée, le même concept, mais l'esthétique a quand même changé.
Ben, l'esthétique a changé dans le sens que, tu sais, j'avais dans ma collection de chansons que j'avais jamais sorties dans mon tiroir, beaucoup de chansons qui parlaient de spiritualité.
Ouais.
Fait que, ben, nécessairement, ça a découlé de ça, tu sais. Puis je me suis dit, c'est mon rêve, je vais faire un album ésotérique, un peu comme Francis Martin l'a fait à l'époque quand il a changé de nom. Il est devenu James Cayfield, il est devenu Kaya. Moi, je vais faire la même chose, mais tu sais, pour la spiritualité de l'amour, dans le fond. Fait que La Force des Ross est née, puis tu sais, il y avait tout ça. Bon, puis là, ben l'esthétique en soi, ça va de soi. Après, tu sais... On se met une petite statue grecque, on est dans le désert avec un mégalithe, un monolithe plutôt en métal, tu sais. Puis après, ben il y a les symboles, la symbolique qui embarque, la chemise en peau de serpent pour représenter justement la Genèse, ces affaires-là, tu sais. La culotte de cuir.
Bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr, qui est devenu un incontournable maintenant.
Un incontournable pour montrer un peu mon côté animal.
Tout à fait.
C'est ça. Mais en soi, ça n'a pas nécessairement changé. On est encore dans le même esthétique.
Et entouré sensiblement de la même équipe aussi pour le show, pour l'album?
Ça a quand même changé. Maintenant, c'est ça. C'est Alexis Goulet-Bouchard à la guitare.
Ouais.
C'est Cédric Martel à la basse. C'est Jean-Étienne Colin-Marcoux qui est le doyen des musiciens, justement. Ça fait combien d'années qu'on joue ensemble? Ça fait 7 ans. À la batterie. Puis Odile Marmé-Rochefort au clavier et à la voix. Mm-hmm. Fait que ça a quand même changé. Ça a quand même changé depuis Santa Barbara.
Oui, depuis Santa Barbara, on a fait aussi beaucoup de chemin musicalement, plusieurs collaborations. Ben oui. C'est de trouver aussi quel est le bon fit pour le type d'album, pour l'esthétique musicale.
Oui, puis on passe beaucoup de temps aussi en tournée ensemble. Hein. Fait que ça joue pour beaucoup. Faut qu'on soit d'abord des bons amis. Puis ouais. Ça se passe bien.
Ça se passe bien jusqu'à maintenant.
On s'est jamais chicané encore.
Je voulais parler un petit peu de La Force des Rosses parce que, bon, j'ai pas eu l'occasion d'avoir une entrevue officielle avec toi pour La Force des Rosses. J'étais dans une couleur, radio d'une certaine couleur dans une autre région du Québec. Mais j'ai vraiment eu un beau kick sur plusieurs de ces chansons-là. Mais force est d'admettre qu'il y en a des assez disparates qui flashent côté style musical. Et il y a au cœur de l'album un 800 666 tout de suite suivi par Boulevard Tendresse.
Ben oui.
Ça, à toutes les fois que je passe à travers l'album, à toutes les fois, on dirait que je suis pas prête.
Ben, c'est de la variété, hein, tu sais. Puis on y va à fond. Là. C'est des paradoxes un peu qui peuvent étonner à première écoute. Je trouve que la suite logique est parfaite.
1-800-666 a quelque chose de très, très Linkin Park.
New metal.
Ouais. C'est ça comme style.
C'est ça, on a du scratch, de la guitare électrique, puis c'est l'époque des début des années 2000, là, ce style-là était très très populaire. Fait qu'on s'est mis à écouter ça là
avec
la gang, on niaisait, puis on a fait un mélange avec les Backstreet Boys aussi là pour le couplet là, c'était un peu
c'est formidable. Mais ça me rassure quelque part parce que je me dis oui, il y a une direction, oui, OK, il y a une esthétique, il y a un visuel. Tout ça est quand même réfléchi, planifié. En tout cas, il y a de la créativité beaucoup qui est mis là-dedans. Mm-hmm. Mais on se permet aussi des petits détours, on se permet des emprunts, puis quand même quelque chose d'assez fou et éclaté dans les albums.
Ben oui, puis c'est un peu, c'est ça, c'est des plaisirs coupables. Puis tout le monde embarque dans cette affaire-là. Tu sais, moi je le fais, moi je suis là, je le vis, j'apporte les chansons. Puis le monde qui embarque dans ce trip-là, dans cette bulle-là, ben après ça, eux autres, tout dépendant c'est quoi leur instrument respectif, mais tu sais, ils s'éclatent là-dedans, puis ils font toutes les affaires qu'ils peuvent pas faire habituellement dans tous les projets qui sont entre guillemets sérieux, tu sais, ou que la proposition est supposée d'être comme dans l'actualité ou dans un style défini. Moi c'est ça, le style est pas défini, c'est de la variété, fait qu'on peut faire n'importe quoi.
Ouais.
Puis tu sais, faut que ça soit c'est ça, kitsch. Fait que le kitsch fait que l'interdit est comme la barrière de l'interdit est brisée complètement. Fait que c'est ça, dans tous les domaines, tu sais, on écoute des affaires, puis là Jean-Étienne il est comme ah là, moi je vais avoir un drum un peu comme la chanson des bébés en 1990. Fait que là on écoute ça, puis on se rend compte que le gars, même si c'est une balade, François il tapait super fort sur son drum, puis tu sais, il était dans le fond du studio, puis fait que là c'est le son qu'on cherche, c'est le son qu'on veut, tu sais, ça se fait plus aujourd'hui ces affaires-là. Après ça, le scratch sur un 800 sex, tu sais, qui on écoute ça, on est crampé raide, là.
C'est
comme, mais ça a pas
ça a
de
très
bon
mal
sens.
Vieilli.
Mais c'est tellement bon en même temps, tu sais, qu'il faut le garder.
C'est du arcois, ça aussi.
Ben oui, c'est ça. C'est un peu le sentiment. Puis au bout du compte, ben, on peut écouter ça de façon sérieuse, puis être satisfait.
Exact. Mm-hmm. Gab, on va aller en musique une dernière fois. Ensuite, j'aurai un petit quiz express pour toi.
Ben oui.
Et on va terminer ça avec une prestation acoustique puisque tu as amené ta belle guitare.
Ah oui.
Belle guitare blanche comme les blés. Et on en reparlera aussi de cette belle guitare-là. Mais on va aller en musique une autre fois avec une chanson de ta sélection. Je rappelle que la sélection sera disponible sur le chiz.ca tout de suite après l'émission parce qu'on n'a pas le temps de passer tous tes choix. Mais quand même, on a un bon aperçu à date. On a Black Sabbath et Georges Brassens. On s'en va maintenant.
Ben, on va y aller avec une chanteuse québécoise que j'apprécie beaucoup, qui avait toujours des costumes flamboyants et qui faisait des spectacles complètement disjonctés. C'est Diane Dufresne.
Bien sûr.
Qui a fait un spectacle qui s'appelle Magie Rose, qui a été une influence aussi pour moi, parce que quand j'ai vu le spectacle Magie Rose, j'avais cette mélodie en tête qui me revenait, je trouvais pas les paroles, puis il y avait le « i » puis le « ose » qui revenait tout le temps, puis là j'étais comme « mais oui, Magie Rose, mais oui, c'est fou ». Wow! Fait que Diane Dufresne avec Oxygène.
Un classique. Sur les ondes de Chiz 94.3, la Queen Diane Dufresne. On vous revient tout de suite après. Donnez-moi de l'oxygène. Antoine Dufresne, tout un personnage sur scène. Elle est reconnue toujours aujourd'hui quand même pour sa flamboyance, oh oui. Cette grande dame de la chanson. On a beau penser à ce qu'on veut, Diane Dufresne l'a déjà fait avant. C'est pas mal ça qui se passe.
Exact.
Et toi aussi, t'es reconnue pour être flamboyant à ta manière, avec des costumes. Donc, il y a quelque chose de quand même similaire, proche parent, entre toi et Diane Dufresne. Ce qui vous unit, c'est le spectacle.
Oui, quand même. La chanson française aussi. Oui. Il y a des points en commun. J'ai jamais rencontré Diane en personne, mais je suis sûr qu'on a d'autres points en commun que ça même.
Tout à fait. Gab, on s'en va dans quelques instants en prestation acoustique avec une chanson tirée de ton dernier album que j'adore, d'ailleurs, que j'avais entendu en version acoustique avant la sortie de l'album.
T'étais au Francouverte, c'est ça?
Je me souviens plus, j'étais où. Oh ben. On s'est vus, on s'est croisés quelque part, puis je l'avais entendu, puis j'avais déjà un bon kick sur le concept de la chanson, sur l'histoire qu'elle raconte. Et donc, c'était une des premières que j'ai écoutées quand l'album est sorti. J'ai skippé toutes les autres. J'allais directement là où ça fait mal, sur le boulevard Tendresse. Alors, on te laisse aller t'installer et on t'écoute en prestation acoustique. Boulevard Tendresse de Gab Paquette à Écoute Locale, les entrevues.
Elle a des chaussures argent, serties de diamants du Gange. Perfecto peau de crotta, la fourrure perlée ample. Elle porte une chemise blanche de soie griffée à coupe ample. Elle a la pupille perçante et des lèvres charmantes. Elle patiente en sirotant une crème de menthe. Elle est arrivée un peu à l'avance, elle l'attend. Lui qui passe souvent quand il est tard et que ça ferme presque au café-bar. Rencontre, boulevard Tendresse, où c'est cher mais ça vaut la peine. Il a une voiture hybride, il vient de prendre ses vacances. Il a des rides de rire et vit au moment présent. Elle rencontre cet étranger qui la met en confiance. Cet homme d'affaires important avec une belle apparence. Il observe cette étrangère avec qui il échange quelques regards chassés croisés avant de tout entreprendre. Une force irrésistible l'invite à se joindre à elle. Une puissance invisible, une voix qui l'appelle, celle qui s'entend quand il est tard et que ça ferme presque au café-bar. Rencontre, boulevard Tendresse, où c'est cher mais ça vaut la peine. Sort de son sac à franges, authentique peau de caïman, un rouge à lèvres d'urgence qu'elle étend nonchalamment. Il sort d'une poche de son jeans, tendance trouée d'avance, sa carte d'affaires professionnelle, il vient de prendre ses vacances. Mais au moment où ils allaient se dire qu'ils sont célibataires, on n'entend plus l'orchestre, on a ouvert les lumières. La serveuse les avertit que ça ferme éminemment, que le dernier service se termine à l'instant, qu'ils devront partir sans avoir pu prendre le temps de vivre ce moment ensemble. Mais heureusement, le barman est une vieille connaissance qui comprend leurs besoins, car il a l'expérience. Il doit leur laisser la chance de discuter plus longtemps pendant qu'il compte son change et que sa caisse balance. Comme ça se passe souvent quand il est tard et que ça ferme presque au café-bar. Rencontre, boulevard Tendresse, où c'est cher mais ça vaut la peine.
Merci beaucoup, Gab Paquette.
Hey, ça a fait plaisir. Merci à vous.
puis on se revoit bientôt. T'as un bel automne, un bel hiver. Bon, évidemment, des shows peut-être qui se dessinent tranquillement, pas vite.
Oui, ben c'est ça. Là, on continue mois de novembre. On est au Culture francophone à Montréal, au Lion d'Or. Ensuite, on est à Gatineau. Ensuite, on est à Alma. Puis il y a un spectacle de Noël qui va être annoncé aussi, si ce n'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est le 11 décembre à Saint-Casimir.
On aime ça. On aime ça, Gabbard. On continue de te suivre. On continue de t'écouter sur les ondes 94.3 comme à l'habitude. Et merci d'être là à Québec pour me donner un petit peu de pep et de folie à la scène locale.
Ben là, ça me fait plaisir. Merci à vous, Chiz. Je vous aime depuis toujours.
Et nous, ben, on vous suggère d'écouter les soucoupes volantes sur les ondes 94.3. Mes blagues à part, on s'en va écouter Écoute locale, la playlist qui a été brodée cette semaine par mon collègue Guillaume Pepin. Je m'appelle Émilie Rioux. Bonne semaine!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là.